There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors.
There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors. I don't know what I'd have done without Billie Holiday or Bessie Smith or Sarah. All these I follow in a tradition. Never sounded like anybody but themselves.
Super Jazz Woman. Quand les musiciennes libres d'hier inspirent celles d'aujourd'hui.
Bonjour Chloé.
Bonjour Guillaume.
Alors on est ici au Conservatoire Régional de Tours en compagnie de l'équipe du Petit Faucheux pour un nouvel épisode du podcast Super Jazz Woman.
Super Jazz Woman, c'est un dialogue musical entre passé et présent, entre les musiciennes qui ont fait l'histoire de cette musique, du jazz, et d'autres qui s'en inspirent pour faire celle de demain.
Alors, je suis en compagnie de Chloé Caïton, qui est chanteuse, qui se produit dans énormément de projets, donc, dont le trio Paloma, le groupe Imagines, et qui a participé aussi à une recréation d'Anna Livia Plurabel d'André Oder avec l'Orchestre National de Jazz.
Et moi, je suis en compagnie de Guillaume Hasbrouck, pianiste, compositeur, fondateur de la compagnie Frasque et à la tête de beaucoup de projets artistiques.
Et on accueille aujourd'hui une saxophoniste, flûtiste, compositrice, leaduse de différents groupes. Il s'agit de Léa Tichelski.
Bien, bonjour Léa.
Bonjour.
Bienvenue dans Super Jazz Woman. Alors aujourd'hui, on va croiser ton portrait avec celui d'autres figures féminines du jazz. Ensuite, on aura un temps d'échange, voilà, pour que tu nous parles de ton parcours, de tes influences, de ton actualité aussi. Et puis, on abordera un sujet particulier qui traverse l'histoire du jazz, le parcours de musiciennes, voilà, un thème qu'on a envie de partager avec les auditeurs. Et puis, on terminera, parce qu'ici, dans cette salle, dans la chapelle, il y a un piano, des micros. Donc, on jouera ensemble une de tes compositions, mm-hmm. avec grand plaisir.
On peut peut-être revenir tout de suite sur ce qu'on vient d'écouter. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Sarah, que mm-hmm. tu as composé pour le groupe Prospectus.
C'est ça.
Voilà, donc avec Henri Perrous au saxophone soprano, donc toi au saxophone alto, Florentin est à la batterie et Julien Ducoin à la contrebasse. Eh bien, Prospectus, ça fait référence à un musicien qu'on connaît.
Et oui, ça fait référence à un morceau de Steve Lacy. Faut savoir qu'avec ce groupe-là, c'est vrai qu'on s'est fait notre son, c'est un peu ça qu'on dit, avec beaucoup de musique de Steve Lacy. Un peu de musique d'Ornette Coleman et un peu de Mal Waldron aussi. Mmh. Et du coup, le premier concert qu'on a fait, on jouait uniquement des reprises, quoi, des covers. Mmh. Et dont ce fameux morceau Prospectus, d'ailleurs, il y a une superbe version qui existe avec une chanteuse.
Irène Aibi.
Voilà, c'est ça. Donc avec des paroles en français et tout. Enfin, c'est.
Oui, parce que c'est un morceau où Steve Lacy, il se base sur un texte, un poème de Brian Gesine, je crois, et qui est un poème trouvé, puisqu'en fait, il a pris un prospectus qu'il a trouvé dans la rue. Et le poème, c'est ça, en fait. C'est juste le texte du prospectus.
T'en sais beaucoup plus que moi, c'est super. mais ouais, voilà, c'était un peu hommage. Et puis, je trouvais que le mot est joli. Donc, voilà. Et puis, ensuite, c'est devenu un groupe de compos. Donc, on a ramené, d'ailleurs, l'album, enfin, dont est extrait Sarah qu'on vient d'écouter. C'est un album un peu rencontre. On a tous les deux avec Henri ramené un petit sac de compos et on les a déchiffrés, travaillés et enregistrés en 3 jours. Voilà. Donc,
Alors, je disais que tu es une musicienne très demandée parce que tu joues beaucoup avec des grandes formations. Tu as fait partie de l'Orchestre national de jazz des jeunes parce qu'il y a, voilà, maintenant il y a un petit peu 2 versions de cet orchestre. Donc c'était avec Franck Tortillier.
Alors moi j'ai fait les 2 premières saisons, donc okay. La première année avec François Janot.
Ok.
Et grosse rencontre. Et la deuxième année avec Franck Tortillier. C'était voilà. Hyper classe aussi. Et d'ailleurs, on continue, la team de Franck Tortillier continue en tant que groupe et collectif. Et on est en train de se constituer justement en collectif. On a même enregistré des bouts de choses qui vont apparaître bientôt.
Voilà, donc un grand orchestre. Il y a aussi le Surnatural Orchestra dans lequel tu joues. Mais on sent bien aussi que dans tes projets, il y a Prospectus, donc qui est un quartet sans instrument harmonique, sans guitare, sans piano. Et puis il y a également un autre quartet avec la même formule qui s'appelle Big Fish, et peut-être avec une musique un petit peu différente.
Forcément, parce que c'est pas du tout les mêmes instrumentistes et c'est pas, on va pas du tout chercher les mêmes influences, etc. Et c'est un groupe pour le coup avec lequel on joue des compositions de nous quatre. Et du coup, forcément, ça a une autre, c'est vraiment une autre façon de faire sonner cette formation. Donc oui, j'ai 2 formations similaires, mais ça, on fait pas du tout la même musique. Donc
on écoute la différence. Avec le principe qu'on a donc avec Super Jazz Woman de dresser des portraits de la musicienne qu'on accueille, mais aussi à travers elle de parler de musicienne du passé. Donc notre question récurrente, c'est quelle figure en fait de l'histoire du jazz notamment t'aurait marqué. Et c'est pas toujours le cas. Tu nous as donné plein de références de musiciennes en fait qui t'ont marqué dans ton parcours, des musiciennes qui sont soit des interprètes, notamment des chanteuses. Tu nous as parlé de Billie Holiday, de Janie Lee, de Chris Connor, et puis aussi des musiciennes qui sont compositrices comme Carla Bley, comme Maria Schneider. Et donc je trouvais ça très intéressant et c'est assez, on n'a pas eu une palette aussi large en fait de références jusque là et c'est intéressant parce que tu es aussi la plus jeune musicienne qu'on accueille en fait, la plus jeune mais très documentée et qui nous fait pas en fait de la palette en fait de ta pratique. Je sais pas si tu es d'accord avec
si ça fait bien sûr mais c'est... En fait, la diversité des références que j'ai données, c'est parce que je me suis quand même creusé la tête. Parce que c'est vrai que, par exemple, en tant que flûtiste et saxophoniste, par exemple, j'ai pas eu de gros modèles féminins instrumentistes. Mais quand on me demande de quelle musique je me suis inspirée, je trouve des figures féminines et du coup, j'ai un peu, je les ai trouvées assez facilement. Mais des chanteuses avec des grosses voix, parce que j'aime beaucoup ça, et j'en écoute très souvent et que je chante beaucoup chez moi aussi. Et la musique de Carla Bley, parce que moi j'ai été beaucoup influencée par en fait déjà son héritage à elle qui est j'ai l'impression beaucoup axé sur des choses de musique répétitive, de trance quoi presque, Et enfin, c'est vrai que en fait, quand je regarde tous mes morceaux maintenant, pratiquement tous mes morceaux, sauf celui qu'on va jouer tout à l'heure, il y a ce truc-là de motif, de répétition, de trance, parce que c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et la mélodie, parce que c'est une grosse mélodiste et que bah peut-être que en tant que soufflante, ça m'a c'est rare de pouvoir repiquer des pianistes et d'en faire vraiment quelque chose directement. Il y a ce truc-là où elle fait de la musique très très claire et tu sens même dans son jeu de piano qu'elle est compositrice. Enfin, on peut repiquer et jouer directement le truc et ça sonne. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'elle m'a vraiment influencée, surtout au début, quand j'ai commencé à composer pour mon premier quintet, Capla. Je pense que c'est la musique que j'écoutais beaucoup sa musique à ce moment-là et du coup, c'est un peu. Je considère un peu ça comme un socle de ce que je fais maintenant, quoi. Enfin, il y a un truc.
Tu composes depuis longtemps ?
Je pense que je compose depuis longtemps. Ouais. Des chansons, des bouts de trucs avec mes sœurs. On a gardé même des fois j'ai retrouvé des cassettes qu'on avait enregistrées ensemble et tout. Mais de façon officielle, on va dire, j'ai commencé à assumer ces choses-là plutôt quand j'étais à l'école, quoi. Donc il y a je sais pas 7-8 ans
quand tu étais au conservatoire.
Ouais, voilà.
D'accord. Est-ce que si ça vous dit, on fait entendre un extrait de Carla Bley, mais alors live.
Oui. Ouais, super.
Ouais, hey. Super.
Okay. Ok.
Donc on va jouer pour toi, Léa. On va jouer Funny Bird Song.
C'est parti.
Super Jazz Woman.
Funny Bird Song. Bah, on avait envie de le jouer, celui-ci.
Voilà, on l'a joué.
Très joli.
Alors, peut-être parlons de l'aspect mélodique et vocal dans ta musique, dans ta composition, ou alors dans ta facette d'interprète. Tu chantes aussi. Comment est-ce que tu abordes ça ?
En fait, j'ai beaucoup chanté quand j'étais ado parce que j'étais pas encore instrumentiste et que je pense que j'ai beaucoup bossé ma voix en cherchant des trucs en fait, en cherchant ce qu'on pouvait faire avec. Et j'ai beaucoup énervé ma famille d'ailleurs. Mais donc y avait un truc un peu naturel de rechanter par la suite. Donc même quand je fais des sessions d'impro ou des groupes très improvisé, j'ai aucun problème à sortir la voix. Enfin, en tout cas, quand ça vient, je considère vraiment ça comme un instrument, comme un de mes trois instruments, un peu, quoi. Même si j'ai du mal à considérer encore en tant que chanteuse parce que c'est quand même un vrai métier et que je travaille plus cette voix et que je suis contente de la sortir quand je le sens, mais que voilà, bon, il y a un truc un petit peu entre deux, mais finalement ouais, elle vient souvent. Et en fait, je compose beaucoup à la voix. Je compose au piano et je chante les mélodies, quoi, comme plein de personnes. Mmh. Mais oui, je compose à la voix. Et d'ailleurs, quand j'ai souvent la voix cassée, et quand j'ai la voix cassée, j'arrive pas à écrire parce que je peux pas chanter ce que j'entends, etc. Et voilà. Donc c'est pas pour rien que je me considère en tant que soufflante, enfin flûtiste et saxophoniste ou saxophoniste et flûtiste. Mmh. Et j'ai pas. Enfin oui, il y a un truc un peu en commun avec ces trois choses là, je pense.
Est-ce que y a des choses que tu ne peux dire qu'avec la voix ? Est-ce que la voix te permet d'accéder à certains endroits dans la musique auxquels tu ne peux pas aller avec la flûte ou le saxophone ?
Ah. Je sais pas. Si c'est une bonne question, parce que en fait, parce que j'ai jamais réfléchi à ça. Je pense que chaque instrument raconte un truc différent, et que si je prends la voix à un moment donné, c'est que j'ai besoin de dire quelque chose de plus. Si je prends la flûte, c'est parce que j'arrive pas à le faire avec le saxophone et vice versa. Et j'aime bien avoir cette possibilité là. Donc oui, oui.
Et en même temps, ça nous permet d'accéder à des facettes de ta personnalité, en fait, parce que la voix, il y a une dimension, c'est une sensibilité particulière. Ça peut être très intime aussi, ou ça peut, enfin voilà.
Bah oui, très intime. Et justement, on avait envie de te faire écouter ceci. Dum 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 da 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 dum boom dum do da dum dum do da dum dum twa ta dum dum dum. A man built his house in his favorite fishing spot on an island in the middle of the Mississippi. And now he's looking at the river rising, sitting on his front porch, rocking in his chair. He was rocking, rock, rock, rock. He was rocking in his chair.
C'est très difficile de couper.
C'est vraiment, ça me fait mal au cœur, mais ça dure, je crois, quelque chose comme 7-8 minutes.
Elle est toute seule.
Elle est toute seule.
Jane Lee,
voilà. Mm. Sur un morceau de Perry Robinson, donc qui s'appelle Newswatch. Et la suite, c'est une grande improvisation sur cette espèce de blues. C'est vraiment fantastique.
Mmh. Ouais, ça me fait marrant parce que je l'ai reconnue direct et elle me fait toujours autant de frissons. Ouais. Et toute seule, là, c'est pas mal. Pareil, je connaissais pas. Merci.
Bah, du coup, oui. On a choisi Jane Lee parce que ça fait partie des figures que tu avais citées. Est-ce que toi.
Ouais. C'est vrai que moi, cette chanteuse, je l'ai rencontrée. Alors, j'ai dû entendre des choses qu'elle avait fait il y a longtemps, et en fait, je l'ai vraiment redécouverte avec Ran Black, ouais, que ouais, j'ai rencontré il y a quelques années, mmh, parce qu'il est venu faire une masterclass ici même, à Tours.
On était dans le coin aussi.
Et, voilà. et du coup, forcément, je me suis remise à écouter sa musique. Et puis, forcément, il y a ces albums un peu connus d'ailleurs, de New West Sound Around.
Voilà. Oui, parce que juste pour resituer, donc Ran Black, Jane Lee, Ran Black qui est pianiste, Jane Lee qui est chanteuse, et donc ils ont constitué à partir de la fin des années 50 un duo qui est culte vraiment aujourd'hui, et notamment grâce à cet album The New World Sound Around, avec une pochette très graphique, très 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 belle, et voilà.
Ouais, ben voilà, et du coup j'ai re-rencontré Jane Lee à cet endroit-là, et en fait ça m'a rendu j'ai beaucoup aimé chanter sur sa voix. Ça m'a inspiré aussi, enfin il y a un côté hyper suave que du coup j'ai essayé de retrouver un peu au saxophone aussi, truc très très instrumental, quoi. Et c'est vrai que Jane Lee, et après Chris Connor dont on parlait vite fait tout à l'heure, j'ai vraiment trouvé ce truc là vraiment de tessiture de saxophone alto, en fait, enfin. Et ça m'a bien inspiré sur les trucs de son. Voilà.
Un nouvel extrait ?
Oui.
«
Alors, vous venez d'entendre un extrait de Maria Schneider avec le SWR Big Band, c'est ça. Alors, je suis incapable de prononcer le mot qui correspond à SWR en allemand. Bref, en tout cas, Maria Schneider, et c'est l'arrangement d'un standard, It Never Was You.
Alors, pourquoi ce choix, Maria Schneider?
Ouais, bah, parce que je me suis récemment beaucoup intéressée à l'orchestre, à l'écriture pour orchestre, parce que j'ai joué beaucoup en grande formation, et en fait j'ai découvert Maria Schneider, il me semble, dans un big band orléanais, mais en plus j'ai fait qu'une répétition, donc c'est très fou comme souvenir, mais je me rappelle que j'ai halluciné sur l'écriture. Tout ce que j'entendais, je me disais, il y a ça qui se passe. Il y a énormément de choses qui se passent dans son écriture et dans sa façon d'arranger. Et voilà. Et je me rappelle que j'avais écouté du coup un de ses premiers albums, là, Evanescence, et que ça m'avait un peu, ça avait un peu changé ma vision du big band, parce que du coup c'est vraiment des ensembles très classique dans la formation, et en même temps je trouve que c'est hyper moderne. Alors maintenant là par exemple, quand on écoute ça, il y a beaucoup de Strat lyrique, etc. Donc finalement ça reste un peu dans une époque, mais dans une tradition, et puis finalement il y a un truc très un peu années 80 par moment, je trouve que c'est hyper hyper bien écrit, et l'utilisation des timbres, etc. Je trouve qu'il y a un truc nouveau par rapport au big band classique qu'on entendait avant. Enfin, je trouve qu'elle a apporté vraiment plein de choses à ça. Voilà.
Alors, tu es la plus jeune des invités de cette première série de podcasts. On t'a pas demandé ton âge, mais on imagine que c'est quelque part autour de un peu avant la trentaine, ou je sais pas.
Ça marchait.
Et on fait découvrir des portraits de musiciennes d'hier, d'aujourd'hui, sachant que certaines sont restées complètement dans l'ombre et n'émergent que beaucoup plus tard aujourd'hui. Mais est-ce que toi, c'est une question, cette question de des femmes dans ce milieu du jazz, est-ce que c'est une question par laquelle tu te sens concernée, qui te traverse? Et puis, on se demandait aussi quel regard tu avais sur les musiciennes peut-être de la génération précédente, musiciennes plus âgées.
Alors, très très vaste sujet.
Oui, vaste sujet.
Après, je savais qu'on allait un peu parler de ça quand même. Mais forcément, je me sens concernée parce que j'ai déjà été appelée pour parler de ma condition d'instrumentiste femme. Et que du coup, ça m'a fait penser. Mais je me sens aussi concernée parce que j'ai mis du temps à me sentir à l'aise et légitime dans ce milieu. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, tout genre confondu. Mais je sais que maintenant, j'ai appris à répondre à des choses qui me faisaient mal avant. Par exemple, ce qui s'appelle du sexisme ordinaire, qui est très présent, on le sait, dans ce milieu. Et même si maintenant, plus ça va, plus je m'associe avec des personnes qui ne cherchent pas à me mettre mal à l'aise, et qui aussi sont un petit peu en déconstruction sur certaines questions de sexisme, de genre, etc. Je suis quand même amenée à rencontrer des gens qui pour qui c'est pas du tout un sujet, pour qui c'est pas du tout un problème, et qui cherchent pas à. Et des fois, j'ai encore ce truc-là où je rentre chez moi et je suis un petit peu diminuée parce que je me suis sentie pas à ma place, ou parce que on m'a rappelé que j'étais un corps féminin sur scène, et que j'étais plus à mon endroit d'instrumentiste. Ça me pose encore problème. Enfin, voilà, je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que je dis vaste sujet, parce que il y a tout qui peut entrer en jeu je sais que vous, en plus, vous avez discuté il y a peu de temps sur est-ce que la pratique artistique peut être genrée ou pas.
L'essentialisation.
Voilà, bah, je ne savais même pas que ça, que ça s'appelait comme ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, cette réflexion-là, parce que... Enfin, par exemple, quand on me dit « Ah, c'est super de ramener ta féminité dans ce groupe », ça m'angoisse à fond parce que je comprends pas ce qu'on me dit, en fait. Quoi. Enfin, et peut-être que je vais mûrir là-dessus et que je vais apprendre pourquoi on me dit ça. Et, mais pour l'instant, en tout cas, c'est un vrai sujet de tension dans ma personne.
Ouais, donc ça me fait dire qu'en fait, on n'est pas au bout, quoi, en fait.
Ah bah pas...
non mais ouais. Tu vois parce que jusque là il y avait un petit peu l'idée que des échanges qu'on a eu avec toutes les musiciennes qu'on a interrogées souvent donc il y avait des constats comme tu le fais aujourd'hui mais il y avait toujours un peu l'idée que ouais mais ça bouge beaucoup. Et que du coup, la génération qui arrive, déconstruise les choses et que c'est, les choses sont en train de se transformer. Et dans ce que j'entends, j'entends pas forcément ça.
Ouais. Bah non, mais c'est vrai. Moi, j'entends souvent dire non, mais maintenant ça va, ça avance, ça bouge quand même. Non. Et en fait, je sais pas si c'est une. Enfin. Moi, je pense qu'il faut pas, faut continuer d'être vigilant parce que en fait, s'il y a des endroits où on se sent pas bien, c'est que c'est un endroit qui a pas été creusé, quoi. Donc oui, forcément, ça bouge, mais je voulais juste préciser que quand même les petits trucs dont je parlais tout à l'heure, les petites réflexions, les petits trucs comme ça, souvent, effectivement, c'est plutôt des personnes d'une génération antérieure
voilà.
qui
tout à fait. Oui, c'est vrai. Peut-être que ça bouge dans les mots, peut-être pas tout à fait encore dans les faits, les actes, mais et puis il y a des histoires de générations qui se confrontent aussi, comme tu disais, mais le fait de conscientiser ces phénomènes, c'est pas quelque chose qu'on faisait il y a 15 ans ou 20 ans.
Et alors, justement, conscientiser, ça veut dire mettre des mots en fait sur des phénomènes. Et on voulait aborder aujourd'hui le phénomène de l'intériorisation. Alors, l'intériorisation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que, c'est le fait que les femmes, certaines femmes, ont une forme d'autocensure en ce qui concerne leur ambition, que ce soit à la création ou à d'autres domaines. C'est l'idée en fait que les femmes n'auraient pas droit à une ambition théorique par exemple ou créative. Et cette discrimination sous-jacente et quasi invisible est tellement intériorisée que les femmes la reproduisent elles-mêmes. Et on avait un petit peu deux exemples à mettre en parallèle de ce phénomène dans deux champs très très différents mais qui se rejoignent.
Alors on va citer des propos de Simone de Beauvoir donc qui dit la chose suivante. Cependant, je ne me considérais pas comme philosophe. Je savais très bien que mon aisance à entrer dans un texte venait précisément de mon manque d'inventivité. Dans ce domaine, les esprits véritablement créateurs sont si rares qu'il est oiseux de me demander pourquoi je n'essayais pas de prendre rang parmi eux. J'ai déjà dit que la condition féminine ne dispose pas à ce genre d'obstination.
Donc voilà, c'est assez étonnant d'entendre ces mots-là de la part de Simone de Beauvoir, qui est quand même un symbole de l'émancipation. Et en fait, on met en relation cette citation avec les propos d'Alice Coltrane, donc grande harpiste, pianiste, compositrice, et qui simplement accessoirement a été l'épouse de John Coltrane. Et Dans une interview, une journaliste lui demande « Alors, parmi tous les morceaux que vous avez écrits, lequel préférez-vous ?» Et sa réponse est un peu étonnante, puisqu'elle dit « Aucun, mais c'est l'œuvre de John. Voilà. » Donc, malheureusement, un exemple d'intériorisation. Voilà.
Voilà, c'est le fait de dire « Non, ça, c'est pas pour moi, hein. c'est trop... Voilà. » C'est trop. Est-ce que ça te parle, cette notion d'intériorisation ?
Ça, c'est pareil, c'est assez pointu, en fait, je trouve, parce que ça touche à des... C'est psychologique, en fait, quoi. Ça va chercher un peu loin, je trouve. C'est une espèce de plafond de verre psychologique,
complètement.
On pourrait dire. Je le sens chez des collègues, parfois. enfin, j'imagine que je dois avoir ce genre de petit plafond en moi qui me fait me questionner ou me, par exemple, quand par exemple la place de lead alto dans un big band, bah c'est un truc que j'ai du mal à prendre. Ouais, c'est difficile pour moi encore. Mais c'est un exemple qui est peut-être aussi technique, mais peut-être, enfin voilà, en fait, c'est difficile de savoir ce qui est de l'ordre de la personnalité, des compétences et du conditionnement, de la façon dont on se place aussi dans un groupe bien masculin. Enfin voilà, et je sais pas. En fait, moi, je saurais pas observer chez moi ce qui vient, quel comportement vient de quel endroit en fait. Mais par contre, ce dont vous parlez, j'ai l'impression de l'observer chez des collègues. Enfin, instrumentiste ou chanteuse assez souvent et d'avoir un peu la posture qui vient encourager allez tu dois faire ça, envoie un dossier, fais une comment ça s'appelle, enfin d'encourager à envoyer de la musique,
de légitimiser celles qui se sentiraient pas légitimes,
c'est ça, qui ne pensent pas avoir leur place, qui ne pensent pas que leur musique est intéressante, qui écrivent des morceaux mais qui refusent de se considérer comme compositrice. Plein de petites choses comme ça, en fait, que des fois j'essaye de déconstruire en me positionnant un peu en tant que coach, comme j'ai pu faire pour mes petites sœurs, en fait, quoi. Enfin, il y a un truc. Et donc oui, je l'observe, quoi, c'est sûr.
On joue un morceau à toi,
Léa. Allez, bon, bah, c'est parti.
Léa
Sichelski, la compositrice et saxophoniste et chanteuse et voilà.
Flûtiste.
Et flûtiste. Alors, le morceau s'appelle « Si ».
Thank you.
Merci beaucoup, Léa, d'être venue.
Merci à vous.
Super Jazz Woman, c'est fini pour aujourd'hui, mais on retrouve tous les autres épisodes de cette série. Voilà, on vous invite à les écouter. À bientôt.
Super Jazz Woman, un podcast réalisé par Chloé Caïton, Guillaume Asbrook et Lucie Baverel. Enregistrement et mixage, Mathieu Plouchard. Production, Le Petit Faucheux, à l'initiative de Françoise Dupas. Un projet possible grâce au soutien de la DRAC Centre-Val-de-Loire et du Centre national de la musique.